Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Quelle est la source de la vie, tant la vie physique que la vie spirituelle? Comment la vie a-t-elle commencé? L'homme peut-il passer d'une vie temporelle à une vie immortelle? La vie survint-elle dans un milieu inerte? L'homme aurait-il reçu la vie d'un être éternel qui possède en lui, et cela depuis toujours, la vie? Lorsqu'un homme meurt, sa vie disparaît-elle définitivement comme la flamme d'une bougie qui s'éteint? L'homme ne vit-il que quelques décennies pour mourir à jamais? Ou bien y aurait-il une sorte de marche à suivre, un mode de vie à observer pour accéder à une autre vie, à une vie éternelle que Dieu lui accorderait? Dans l'affirmative, comment l'homme peut-il obtenir cette vie éternelle? La Bible nous apprend que l'homme ne vient pas au monde pourvu de l'Esprit de Dieu. Il ne peut recevoir cet Esprit que sous certaines conditions, c'est-à-dire après s'être repenti de ses péchés et s'être engagé à obéir à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une personne, c'est la puissance par laquelle Dieu a créé tout ce qui existe, par laquelle il soutient sa création. Le Saint-Esprit est aussi la pensée de Dieu. C'est également la semence divine par laquelle le Père engendre ses enfants, ceux qui se soumettent à ses conditions pour obtenir l'immortalité. La biogenèse est une théorie selon laquelle tout être ne peut provenir que d'un autre être vivant. Cette loi a été fondée par Redi et fut démontrée par Louis Pasteur, prouvant ainsi que la vie ne peut venir que de la vie. Mais comme certains scientifiques rejettent le concept d'un être suprême, la science est réduite à des conjectures au sujet de l'origine de l'homme. Il est correct de se référer à l'évolution comme étant une théorie, car il ne s'agit que d'une hypothèse. Par contre, la théorie de la biogenèse n'est plus une théorie, elle a été prouvée. Les Écritures révèlent que toute vie vient de Dieu. Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. La Bible nous dit que les anges ont été créés et qu'ils sont eux aussi des êtres spirituels. Ils sont composés d'esprit. Le Créateur devait donc exister avant leur création. Quant aux anges, ils ont existé avant la création de la terre. Mais comment Dieu en est-il venu à exister? Les deux membres de la famille divine, ceux que nous appelons aujourd'hui le Père et le Fils, sont des êtres spirituels. Ils ont toujours existé, ils existent de toute éternité. Ils possèdent en eux la vie éternelle. L'apôtre Jean a écrit « Au commencement était la parole ». Dans ce passage, il est question du commencement de toute la création, tant ce qui est spirituel que physique. « Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La théorie de la biogenèse, qui est amplement prouvée, s'applique à la vie physique, mais la vie éternelle, elle, ne peut venir que par l'Esprit de Dieu, cet esprit de vie qui est implanté dans chaque humain après sa repentance et son baptême. L'homme est mortel. Dieu lui possède l'immortalité. Dieu n'a pas créé l'homme immortel, même par l'intermédiaire d'une âme. Rien n'est plus faux. Une étude approfondie des textes hébreux révèle que l'homme, ainsi que toutes les autres créatures physiques, sont appelées des âmes, en hébreu « nefesh ». La Bible illustre à de nombreuses reprises que l'âme peut et doit mourir. Le prophète Ézéchiel a écrit « L'âme, nefesh, qui pêche est celle qui mourra ». La Bible fait mention d'âmes mortes. En parlant de celui qui a fait vœu de Naziréa, l'Éternel déclare « Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne, nefesh ou âme, morte. Un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, nefesh toujours. » La parole de Dieu révèle que l'immortalité est quelque chose que l'homme doit rechercher. Jésus a déclaré « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » L'apôtre Paul parle du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Si l'homme ne possède pas en lui la vie éternelle, comment peut-il y accéder? Jésus lui-même répond à cette question cruciale. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce passage des Écritures révèle clairement que l'homme périra s'il ne croit pas en Christ, le Fils de Dieu, et qu'il recevra la vie éternelle s'il accepte le Christ comme sauveur. Toutefois, vous devez savoir qu'accepter le Christ comme sauveur implique bien des choses. Un jeune homme demanda au Christ, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Si tu veux entrer dans la vie, mais la vie éternelle, observe les commandements. » Dieu est une famille et cette famille est composée actuellement de deux personnes. Voilà pourquoi nous lisons dans la Genèse, « Faisons, il s'agit du pluriel, l'homme à notre pluriel, image selon notre toujours pluriel, après avoir placé dans le jardin d'Éden. L'homme transgressa les ordres divins. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Si Adam et Ève avaient obéi à leur Créateur, ils auraient eu accès à l'arbre de vie, ils auraient reçu l'Esprit de vie, cet Esprit de Dieu qui leur aurait donné la vie éternelle. Par cet acte de rébellion délibérée, Dieu conclut que la descendance d'Adam choisirait elle aussi la voie de Satan, le bien et le mal, et se mettrait sous la menthe de la loi, la mort éternelle. Cette faillite morale humaine fut la raison pour laquelle Dieu amena le déluge sur la terre. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'apôtre Paul a écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, en désobéissant comme le fit Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Comment Dieu peut-il effacer les transgressions de l'homme et lui accorder la vie éternelle? Ceci ne peut se faire que si l'homme reconnaît ses péchés, accepte le Christ comme sauveur personnel et se fait baptiser. Alors il recevra le don précieux du Saint-Esprit, cette puissance dont il n'est pas doté dès la naissance. En général, à l'exception des patriarches, de quelques juges, de quelques rois et prophètes, l'humanité ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit avant que le Christ ne soit ressuscité et glorifié. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, spirituellement parlant, qu'il vienne à moi, qu'il puise en moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront, se répandront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Après sa résurrection, Jésus déclara à ses disciples, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Remarquez que cette puissance qu'ils devaient recevoir n'était pas encore en eux. L'homme ne possède pas une âme, il est une âme. L'immortalité n'est pas innée en lui. Il a reçu un esprit, en effet, mais il s'agit de son intelligence et non du Saint-Esprit de Dieu qu'il ne peut recevoir qu'après repentance et baptême. Lorsque Dieu le Père engendre une personne, elle hérite des caractéristiques divines qui sont l'amour, la foi, la sagesse, la puissance, ainsi qu'un acompte de vie éternelle. Et cela, en attendant de naître dans la famille divine. Le Christ est né de nouveau lors de sa résurrection, de même celui ou celle qui a reçu le Saint-Esprit naîtra de nouveau à sa résurrection. L'apôtre Jean a écrit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cette chose afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » L'apôtre Paul a écrit « J'ai été crucifié avec Christ. » C'est ce qui est arrivé au moment de son baptême, comme il l'affirme dans Romains au chapitre 6. « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Tout ceci est conforme à la théorie de la biogenèse qui nous apprend que la vie ne peut provenir que d'un être vivant. La mort du Christ ne nous accorde pas la vie. Seul un Christ vivant et œuvrant de concert avec son Père peut accorder l'esprit de vie. Paul a écrit « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous, et remarquez le temps futur du verbe, serons-nous sauvés par sa vie ?» Nous ne sommes pas sauvés par la mort du Christ, nous le serons par sa vie. Les Écritures confirment que l'Esprit vivifie, il donne la vie. Jésus a ajouté, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. Dans la Nouvelle Jérusalem, ceux dont le nom aura été inscrit dans le livre de vie et qui seront devenus des enfants immortels de Dieu, auront libre accès au fleuve d'eau vive et ils mangeront librement à l'arbre de vie. Qu'arrivera-t-il à ceux qui n'auront pas reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie? En parlant d'eux, le prophète Malachie écrit « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Quant aux méchants, tous ceux qui n'auront pas l'esprit de vie, ils périront corps et âme dans la géhenne. Ils iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Leur punition sera la mort éternelle, une annihilation totale comme l'apôtre Pierre l'écrit. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Dieu a fait une promesse, la voici. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut ouvert devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voici une autre promesse. Celui qui vaincra Satan, le péché, ce monde mauvais et ses natures humaines, héritera ces choses. Et ces choses sont la Nouvelle Jérusalem, l'univers entier et tout ce qui appartient à Dieu. « Je serai son Dieu, ajoute l'Éternel, et il sera mon fils. » L'apôtre Paul a écrit, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.